Sémiologie de la hanche. Acte 1. L'interrogatoire.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rumcast. Bonjour Lucas.
Bonjour professeur.
Aujourd'hui, je vais très peu parler. Tu vas mener cette consultation comme si tu étais en stage. Je ne t'interromprai qu'à la fin de chaque étape. Une seule consigne, ne cherche pas immédiatement un diagnostic, cherche à comprendre le problème. Ça te va ?
Je vais essayer.
Bonjour docteur.
Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Rappelez-moi votre âge.
Alors j'ai 62 ans. Depuis quelques mois, j'ai mal à la hanche droite. Au début, ce n'était pas très gênant. Mais maintenant, ça commence vraiment à me limiter.
Depuis combien de temps environ ?
Je dirais 6 ou 7 mois.
L'apparition a été brutale ou plutôt progressive ?
Progressive.
Vous vous souvenez d'un traumatisme ? Une chute ? Un faux mouvement ?
Non, rien de particulier.
Est-ce que cette douleur est permanente ? Ou survient-elle dans certaines circonstances ?
Surtout quand je marche, quand je reste longtemps debout et lorsque je monte les escaliers.
Et au repos ?
Quand je suis assis, ça va beaucoup mieux.
La nuit ? Est-ce que la douleur vous réveille ?
Non, jamais.
Très bien. Avez-vous déjà présenté ce type de douleur auparavant ?
Jamais.
Vous avez de la fièvre ? Perdu du poids récemment ?
Non.
Est-ce que cette douleur vous empêche certaines activités ?
Oui. Mettre mes chaussures devient compliqué et entrer dans la voiture aussi.
D'accord. Merci beaucoup.
Lucas, avant que nous allions plus loin, j'aimerais demander quelque chose aux auditeurs. Ne continuez pas le podcast tout de suite. Prenez quelques secondes. Selon vous, quelles informations importantes Lucas n'a-t-il pas recherchées ? Mettez le podcast sur pause. Alors Lucas, comment trouves-tu ton interrogatoire ?
Je pense avoir recherché la durée d'évolution, le mode de début, l'horaire mécanique ou inflammatoire, la notion de traumatisme, les signes généraux et le retentissement fonctionnel.
C'est vrai, hein. Ton interrogatoire est déjà structuré, mais il lui manque plusieurs éléments essentiels. Le premier est probablement le plus important. Tu ne lui as jamais demandé de te montrer où il avait mal. Hein.
C'est vrai, il m'a dit la hanche. Et j'ai considéré que cela suffisait.
C'est une erreur extrêmement fréquente lorsqu'un patient dit « j'ai mal à la hanche ». Il peut désigner le pli inguinal, la région trochantérienne, la fesse, ou parfois même une douleur projetée. Ces localisations n'ont absolument pas la même signification diagnostique. Autre oubli, tu ne lui as pas demandé si la douleur irradiait. Pourquoi est-ce important ?
Parce qu'une douleur peut provenir du rachis, ou irradier vers le genou, et ne pas être liée directement à l'articulation coxo-fémorale.
Exactement. Et justement, n'oublie pas que toute douleur ressentie au genou peut parfois être la traduction d'une pathologie de la hanche. Enfin, tu ne lui as posé aucune question concernant ses activités.
Vous voulez dire son métier ? Son activité physique ?
Exactement. Profession, loisirs, activité sportive. Ces éléments modifient parfois profondément notre raisonnement diagnostique. En revanche, tu as très bien recherché le rythme des douleurs. Pourquoi était-ce si important ?
Parce que son histoire est très évocatrice d'une douleur mécanique. Douleur à la marche, amélioration au repos, absence de réveil nocturne.
Parfait. Tu n'as pas posé ces questions pour remplir une checklist. Tu les as posées parce qu'elles orientent déjà ton raisonnement. À ce stade, je ne peux pas encore parler de diagnostic, mais je peux déjà dire une chose. Nous sommes probablement devant une douleur de hanche d'horaire mécanique. La suite de l'examen nous dira si cette impression se confirme. Dans le prochain acte, tu vas examiner cette hanche, mais attention, tu vas découvrir que beaucoup d'étudiants regardent la hanche sans vraiment examiner le patient. Et c'est souvent là que commencent les erreurs.
Acte 2. Observer avant de toucher.
Très bien, Lucas. Ton interrogatoire est terminé. Tu penses maintenant avoir une idée de ce dont souffre ce patient. Mais tu sais, c'est souvent à ce moment que les étudiants veulent aller trop vite. Que fais-tu maintenant?
Je vais examiner sa hanche.
Très bien, je ne t'aiderai pas. Imagine que je ne suis plus là. Conduis ton examen.
Monsieur, est-ce que vous pouvez vous allonger sur la table?
Stop.
Déjà?
Oui, et je vais demander aux auditeurs qu'a oublié Lucas. Prenez quelques secondes. Ne poursuivez pas le podcast tout de suite. Alors Lucas, pourquoi t'ai-je arrêté?
Je ne sais pas.
Tu viens de faire exactement ce que font beaucoup d'étudiants. Tu veux examiner une hanche sans avoir regardé le patient.
C'est vrai, je l'ai directement installé en décubitus.
Or, l'examen d'une hanche ne commence pas couché. Il commence debout, puis à la marche, puis seulement en décubitus. Pourquoi d'après toi?
Parce que certaines anomalies disparaissent une fois le patient allongé.
Exactement. Une boiterie, une attitude vicieuse, une perte du pas postérieur, une insuffisance du moyen fessier. Les experts recommandent un examen debout, à la marche, puis couché. Très bien.
Alors, monsieur, pouvez-vous marcher quelques mètres?
Bien sûr.
Je regarde, ça marche.
Très bien. Qu'est-ce que tu cherches exactement?
Une boiterie.
C'est un peu vague. Quelle boiterie?
Une boiterie d'esquive.
Très bien. Il en existe d'autres. Les connais-tu?
Je me souviens de la boiterie de Trendelenburg. Mais j'avoue que je confonds souvent.
Essayons de raisonner. Pourquoi un patient boite-t-il?
Parce qu'il a mal. Parfois, mais pas toujours. Parce qu'il manque de force?
Voilà, tu viens de retrouver la boiterie de Trendelenburg. Elle traduit une insuffisance du moyen fessier. Pause réflexive. Vous voyez un patient marcher, il penche le tronc vers l'avant à chaque pas. Avant de penser à un diagnostic, quelle mobilité de hanche suspectez-vous limitée? Mettez le podcast sur pause.
Maintenant, je peux examiner le patient couché.
Oui, mais continue ton inspection. Tu regardes quoi?
Je cherche une rougeur, une ecchymose, une déformation.
Continue.
Une attitude en rotation externe, une différence de longueur, un flessum.
Très bien. Pourquoi le flessum est-il important?
Parce qu'il peut traduire une atteinte importante de la hanche.
Oui, mais pas seulement. Il doit aussi faire évoquer une arthrite de hanche ou un psoitis. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se contenter d'écrire flessum sans réfléchir à sa cause.
J'avoue. Je n'aurais pas pensé au psoitis.
C'est normal, c'est justement pour cela qu'on révise ensemble. Une dernière chose, as-tu terminé ton inspection? Je pense que oui. Regarde encore, j'ai...
L'amyotrophie, je ne l'ai pas recherchée.
Exactement, comment fais-tu?
Je compare les deux quadriceps.
Et idéalement, tu mesures leur diamètre de façon bilatérale et comparative. Les experts recommandent une mesure à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la patella. Très bien, Lucas. Tu vois ce qui vient de se passer? Tu n'as toujours pas palpé, tu n'as toujours pas mobilisé la hanche. Et pourtant, tu as déjà recueilli énormément d'informations.
Je crois que je comprends. Observer, ce n'est pas attendre avant d'examiner. Observer, c'est déjà examiner.
Exactement. Et c'est probablement l'une des compétences les plus difficiles à acquérir. Dans l'acte suivant, tu vas enfin poser les mains sur le patient.
Acte 3. Poser les mains, mais pas au hasard.
Très bien, Lucas. Tu as terminé ton inspection. Tu vas maintenant examiner la hanche. Je te laisse faire.
Monsieur, je vais maintenant examiner votre hanche. Dites-moi si un mouvement est douloureux. Je commence par la flexion de hanche.
Très bien, continue.
Ensuite, je réalise une rotation externe, puis une rotation interne.
Tu as terminé ?
Je... Oui. Enfin, je crois.
Je vais m'adresser aux auditeurs. Selon vous, qu'a oublié Lucas ? Mettez le podcast sur pause. Alors, Lucas ?
Je n'ai pas testé l'abduction, ni l'adduction, ni l'extension.
Exactement. Une articulation ne s'examine jamais à moitié. Un examen complet de la hanche comprend l'étude des amplitudes actives puis passives, flexion, extension, abduction, adduction, rotation interne et rotation externe, toujours en comparaison avec le côté opposé.
J'ai une question, professeur. Pourquoi insistez-vous autant sur le fait de comparer avec le côté contralatéral ?
Parce que certains patients vivent depuis des années avec une limitation. Ils la considèrent comme normale. Comparer les deux côtés permet souvent de révéler une perte de mobilité passée inaperçue. Et surtout, cela évite de conclure qu'une mobilité est pathologique alors qu'elle correspond simplement aux caractéristiques propres du patient.
Je comprends. Je poursuis donc mon examen.
La flexion est légèrement diminuée, l'abduction est conservée, l'adduction également. En revanche, la rotation interne est nettement limitée. Très bien, je vais te poser une question. Pourquoi cette information est-elle importante ?
Parce que la rotation interne est souvent la première mobilité à diminuer dans une coxopathie dégénérative.
Exactement, et c'est probablement l'information la plus discriminante de ton examen aujourd'hui. Beaucoup d'étudiants regardent la flexion. Peu pensent spontanément à analyser la rotation interne. Or, c'est souvent elle qui s'altère précocement dans la coxarthrose. Pause réflexive. Vous examinez un patient présentant une douleur mécanique de hanche. Toutes les mobilités sont normales, sauf une. La rotation interne, qu'est-ce que cela évoque chez vous ? Ne cherchez pas un diagnostic définitif. Demandez-vous simplement pourquoi cette mobilité est la première à être touchée.
Professeur, j'ai terminé les mobilités.
Tu es sûr ?
J'ai oublié quelque chose ?
Oui, et c'est une erreur très fréquente. Tu as testé des mouvements, tu n'as réalisé aucune manœuvre spécifique.
Le signe de la clé ?
Exactement, montre-moi.
En décubitus dorsal, jambe tendue, je place ma main sur la cuisse et l'autre sur la jambe du patient, puis effectue des mouvements de rotation interne et externe du membre inférieur. Je recherche une perte de mobilité ou une douleur.
Très bien. Pourquoi appelle-t-on cette manœuvre signe de la clé ?
Parce que le mouvement rappelle celui d'une clé, que l'on tourne dans une serrure.
Parfait. Et lorsque cette mobilisation est douloureuse ou limitée, elle renforce la suspicion d'une atteinte coxo-fémorale. Mais il reste encore une manœuvre importante. Tu ne l'as toujours pas réalisée, Lucas.
Ah oui, la recherche de clinostatisme ?
Claire, oui. Explique-nous.
Il permet notamment de rechercher un flessum de hanche, une limitation de l'extension qui peut passer inaperçue lors d'un examen trop rapide.
Exactement. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais se contenter de faire bouger une hanche.
Je crois que je commence à comprendre votre façon d'examiner. Avant, je récitais les mobilités. Aujourd'hui, je sais pourquoi je les réalise.
Et c'est précisément la différence entre un étudiant qui connaît son cours et un étudiant qui commence à raisonner comme un clinicien. Claire, une dernière question. Tu n'as toujours pas parlé de la palpation. Pourquoi ? Lucas, parce que...
L'articulation coxo-fémorale est profonde. On ne peut pas réellement la palper directement. On recherche plutôt des douleurs de voisinage, au pli de l'aine, au grand trochanté, à la région fessière ou encore des douleurs projetées.
Parfait. C'est une erreur classique des étudiants. Ils disent « je palpe la hanche ». En réalité, ils recherchent des points douloureux périphériques qui orientent ensuite leur raisonnement. Nous avons maintenant un interrogatoire cohérent, une inspection complète, un examen clinique structuré. Mais tout cela ne sert à rien. Si tu n'es pas capable de faire la synthèse, et c'est justement ce que nous allons faire dans le prochain acte, tu vas me présenter ton observation comme si nous étions en staff.
Acte 4. Présente-moi ton patient.
Très bien, Lucas, tu as terminé ton examen. Nous sommes maintenant en salle de staff. Je veux que tu me présentes ton patient, comme si tu présentais un dossier. Je ne t'interromprai pas. Vas-y.
Il s'agit d'un homme de 62 ans, qui consulte pour une douleur de hanche droite évoluant depuis environ 6 mois. La douleur est d'installation progressive. Il n'y a pas de notion de traumatisme. L'horaire est mécanique. Elle apparaît principalement à la marche. Elle est améliorée par le repos. Il n'existe ni réveil nocturne, ni syndrome infectieux. Le retentissement fonctionnel est marqué par des difficultés pour mettre ses chaussures et entrer dans une voiture. À l'examen clinique, je retrouve une boiterie discrète, une limitation de la rotation interne de hanche. Le signe de la clé reproduit la douleur. Il n'y a pas de clinostatisme, l'ensemble évoque une coxalgie débutante.
Stop.
J'ai oublié quelque chose ?
Non, tu as utilisé un mauvais mot. Quel mot vous a fait tiquer ? Mettez le podcast sur pause. Reprise. Lucas, tu as conclu à une coxalgie. Pourquoi as-tu utilisé ce terme ?
Parce que le patient présente une douleur de hanche. Je pensais que c'était le terme médical.
C'est justement le piège. Dans le langage courant, beaucoup utilisent le mot coxalgie pour désigner une douleur de hanche. En rhumatologie, nous évitons ce terme. Historiquement, la coxalgie désigne la tuberculose de la hanche. Devant ton patient, tu décris une douleur de hanche d'horaire mécanique ou douleur coxo-fémorale. Mais tu ne dois pas employer coxalgie comme synonyme de douleur de hanche.
Je comprends. Donc, je devrais plutôt dire douleur de hanche droite d'horaire mécanique évocatrice d'une coxarthrose débutante.
Voilà, la précision du vocabulaire reflète souvent la précision du raisonnement. Maintenant, tu m'as parlé de coxarthrose. Très bien, mais j'aimerais te poser une question. As-tu déjà un diagnostic ou seulement une hypothèse ?
Seulement une hypothèse.
Pourquoi ?
Parce que, à ce stade, je dispose d'arguments en faveur d'une coxopathie dégénérative. Mais je n'ai pas encore éliminé les autres diagnostics.
Excellent. Alors faisons-le ensemble. Je veux que tu me cites les diagnostics différentiels, pas au hasard, classe-les.
Je commencerai par vérifier qu'il s'agit bien d'une douleur provenant de la hanche. Je dois éliminer une douleur projetée.
Lesquelles ?
Une origine lombaire. Par exemple, une radiculalgie L3 ou L4. Une atteinte des articulations sacro-iliaques.
Claire, très bien. Continue.
Je dois également rechercher une douleur périarticulaire, comme une tendinopathie des moyens fessiers ou une bursite trochantérienne.
Pourquoi est-ce important ?
Parce que le patient dit avoir mal à la hanche. Mais la douleur peut en réalité provenir des structures situées autour de l'articulation.
Exactement. Et c'est précisément pour cela que je t'avais reproché au début de la consultation de ne pas lui demander de montrer sa douleur avec un doigt. D'ailleurs, Lucas, si je te dis tendinopathie du moyen fessier, où le patient va-t-il te montrer sa douleur, Lucas ?
Je dirais en pleine fesse ?
C'est une réponse très fréquente, mais ce n'est pas la bonne. Et vous, chers auditeurs, prenez quelques secondes. Où siège réellement la douleur d'une tendinopathie du moyen fessier ? Mettez le podcast sur pause. En réalité, le patient montre le plus souvent la face latérale de la hanche, en regard du grand trochanté.
C'est vrai. J'associais spontanément le muscle moyen fessier à une douleur de la fesse.
En clinique, il faut toujours raisonner à partir de l'insertion du tendon. Et justement, peux-tu me rappeler comment on diagnostique de manière générale une tendinopathie ?
Je me souviens d'une triade, mais je ne suis plus certain.
Essaie de la reconstruire.
Il y a une douleur à la palpation de l'insertion tendineuse. Une douleur provoquée par la contraction contrariée du muscle. Et une douleur lors de l'étirement passif du tendon.
Parfait. C'est exactement la triade clinique d'une tendinopathie. Retenez-la bien, car elle est valable pour la plupart des tendons de l'appareil locomoteur. Douleur élective à la palpation de l'insertion tendineuse, douleur lors de la contraction contrariée, douleur lors de la mise en tension ou de l'étirement passif du tendon. Si ces trois éléments sont présents, votre hypothèse de tendinopathie devient beaucoup plus solide. Appliquons maintenant cette triade au moyen fessier. Premièrement, où recherches-tu la douleur à la palpation ?
Directement sur le grand trochanté, au niveau de l'insertion du tendon du moyen fessier.
Très bien. Deuxièmement, quel mouvement contrarié reproduit la douleur ?
Puisque le moyen fessier est le principal abducteur, l'abduction contrariée de la hanche.
Exactement. Et enfin, comment mets-tu ce tendon en tension ?
Par une adduction passive de la hanche qui étire le moyen fessier.
parfait. Retenez cette logique. Ne cherchez pas à apprendre des tests par cœur. Demandez-vous toujours où s'insère le tendon. Quel est son mouvement principal? Comment puis-je l'étirer? Si vous répondez à ces trois questions, vous retrouverez presque toujours l'examen clinique adapté. Très bien, continue ta synthèse.
Le rythme mécanique rend l'hypothèse d'une arthrite peu probable.
Très bien, et quelles seraient les caractéristiques qui t'orienteraient davantage vers une arthrite?
Une douleur inflammatoire, des réveils nocturnes, une raideur matinale prolongée.
Très bien, et surtout une limitation globale des amplitudes articulaires plutôt qu'une atteinte prédominante de la rotation interne. Pause réflexive, Claire. À votre tour, vous êtes de devant ce patient. Ouais. Quelle information vous manque encore? Pour être raisonnablement confiant dans votre hypothèse de coxarthrose, ne cherchez pas un examen complémentaire. Demandez-vous d'abord, que puis-je encore apprendre du patient? Professeur.
Je pense maintenant à demander une radiographie.
Très bien, mais je vais te poser une dernière question. Pourquoi veux-tu une radiographie?
Pas pour trouver un diagnostic, pour confirmer ou infirmer l'hypothèse que mon examen clinique m'a permis de construire.
Exactement. Tu vois, tu ne demandes plus une imagerie parce que c'est la suite logique. Tu la demandes parce qu'elle répond à une question clinique et c'est toute la différence. Dans le dernier acte, nous allons revenir sur cette consultation, pas pour retenir une liste de signes, mais pour comprendre ce qui a réellement changé dans ta façon de raisonner.
Acte 5. Ce n'est pas la hanche que tu as examinée, c'est ton raisonnement.
Lucas, la consultation est terminée. Le patient est parti, mais j'aimerais te poser une question. Selon toi, qu'est-ce que tu viens réellement d'apprendre aujourd'hui, Lucas?
J'ai appris. Comment examiner une hanche?
Claire, tu en es certain, Lucas?
Non, je crois que c'est plus que ça.
Claire, vas-y, je t'écoute, Lucas.
Au début de la consultation, je voulais surtout trouver un diagnostic. Aujourd'hui, j'ai compris que je devais d'abord comprendre la plainte du patient, construire progressivement des hypothèses, puis utiliser mon examen clinique pour les confirmer ou les remettre en question.
Claire, très bien. Et selon toi, à quel moment ton raisonnement a réellement commencé? Quand tu as mobilisé la hanche, Lucas?
Non, dès l'interrogatoire. Peut-être même dès que le patient est entré dans la pièce.
Claire.
Exactement. Et c'est probablement l'idée la plus importante de cet épisode. Le raisonnement clinique commence bien avant le premier geste.
Je vais vous poser la même question. Repensez au dernier patient souffrant d'une douleur de hanche que vous avez vu en consultation ou en stage. À quel moment votre raisonnement a-t-il réellement commencé? Lorsque vous avez réalisé les mobilités ou dès les premières secondes de la rencontre? Prenez quelques instants. Lucas, j'aimerais maintenant revenir sur quelques erreurs que tu as commises aujourd'hui, non pas pour te mettre en difficulté, mais parce que ce sont les mêmes erreurs que font presque tous les étudiants. Tu es prêt?
Je crois. Je n'ai plus vraiment le choix.
Première erreur, tu n'as pas demandé au patient de montrer précisément sa douleur. Pourquoi est-ce problématique?
Parce qu'une douleur ressentie à la hanche peut en réalité provenir de plusieurs structures. Sans localisation précise, mon raisonnement risque de partir sur une mauvaise piste.
Très bien. Deuxième erreur, tu as voulu installer immédiatement le patient sur la table d'examen.
Alors que j'aurais dû commencer par l'observer debout, puis à la marche.
Exactement. Troisième erreur, tu as testé quelques mobilités, mais pas toutes. Pourquoi est-ce dangereux?
Parce qu'en oubliant certaines amplitudes, je risque de passer à côté d'un élément discriminant. Par exemple, la limitation de la rotation interne.
Très bien, quatrième erreur, tu as parlé de coxalgie.
Alors que ce terme est historiquement réservé à la tuberculose de la hanche, j'aurais dû parler de douleur de hanche ou de suspicion de coxarthrose.
Parfait. Et enfin, cinquième erreur, tu étais prêt à demander une radiographie.
Oui, mais j'ai compris que je ne demandais pas une radiographie parce qu'elle fait partie de la consultation. Je la demande parce qu'elle répond à une hypothèse construite grâce à l'interrogatoire et à l'examen clinique.
Exactement. Tu vois, aucune de ces erreurs n'était liée à un manque de mémoire. Elles étaient liées à la manière dont tu raisonnais. Et c'est précisément cela que nous cherchons à faire évoluer. Dernière pause réflexive. Avant de terminer cet épisode, je vous propose un dernier exercice. La prochaine fois que vous examinerez une hanche, essayez de ne plus penser quelles sont les manœuvres à réaliser. Mais posez-vous plutôt cette question, quelle hypothèse suis-je en train de tester? Si chaque geste répond à une question clinique, alors votre examen deviendra naturellement plus pertinent. Lucas, si tu devais retenir seulement 5 idées de cette consultation, lesquelles choisirais-tu?
Je dirais, premièrement, une douleur de hanche doit toujours être localisée précisément. Deuxièmement, l'observation du patient commence dès son entrée dans la salle. Troisièmement, l'examen de la hanche est comparatif et toutes les amplitudes doivent être évaluées. Quatrièmement, la rotation interne est une mobilité essentielle à analyser dans la suspicion de coxarthrose. Et enfin, les examens complémentaires ne remplacent jamais un raisonnement clinique. Ils viennent répondre à une question que l'on s'est déjà posée.
Je n'aurai rien à ajouter. Et c'est exactement ce que j'espérais entendre. Parce que tu n'as pas appris une succession de gestes. Tu as appris une méthode. Et cette méthode, tu pourras l'utiliser devant n'importe quelle articulation. Et merci d'avoir partagé cette consultation avec nous. Si une seule idée devait vous accompagner demain en stage, ce serait celle-ci. N'examinez jamais une articulation pour faire un examen. Examinez-la pour répondre à une hypothèse clinique. C'est cette manière de raisonner qui fait la différence entre réciter une sémiologie et pratiquer la médecine.